Je t'ai surpris. Oh non, non, n'aie pas peur. Je ne vais pas te faire de mal, voyons. Je suis Jack, mais tu peux m'appeler Monsieur Citrouille. Qu'est-ce que tu fais à rôder seul par ici? C'est dangereux, voyons. Seuls les plus avertis peuvent s'aventurer en ces lieux. Ce que tu vas découvrir risque de t'effrayer. Je te conseille donc de t'en aller. Moi, je m'en vais en tout cas. Quoi? Tu es encore là? Bon, j'ai compris. Tu veux passer un Halloween d'enfer, c'est ça? Tu ne veux pas dormir? Tu veux avoir les chocottes? Ne pas fermer les yeux de la nuit en te disant sans cesse « Oh non, si seulement j'avais écouté Monsieur Citrouille, je ne serais pas dans cet état !» D'accord, alors vas-y, je ne vais pas te retenir. Bienvenue à Vendredi Frisson. Prépare-toi, car cela risque d'être ton dernier.
Bonjour à tous, et bienvenue dans Vendredi Frisson. Waouh, je suis une voix off. Beaucoup de problèmes pour l'enregistrement de cet épisode. Ça me tue de rire de commencer la season 2 avec autant de problèmes. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on peut expliquer? Oui, on va expliquer tout simplement.
Surtout qu'on doit gagner des minutes, parce qu'on avait prévu des choses.
Non, c'est juste une histoire de des gens qui devaient venir, mais qui finalement ne viennent pas, et donc on doit s'arranger un peu autrement. Donc là, physiquement à la table ce soir, on est deux, mais sinon il y a une autre personne, mais je vous la présenterai peu après.
On vous rassure, ils vont toujours bien.
Ils vont toujours bien.
Un peu malade, mais...
Je ne suis pas seul ce soir.
Ce soir, on est là au milieu de l'après-midi.
Quand j'ai écrit ça, j'étais le soir, mais... C'est vrai que d'habitude, on enregistre plus aux alentours de 1h du matin, en fait.
C'est ça.
Donc oui, là ça fait très bizarre d'enregistrer un Vendredi Frisson à 14h. Mais du coup, à ma table aujourd'hui, celui qui m'accompagne sur tous les épisodes, il est un petit peu notre Jean-Jacques Goldman du podcast français. Je parle bien évidemment de Jordan. Bonjour Jordan.
Bonjour Jean.
Et à notre, pas table du coup, à notre table, il n'est pas présent physiquement, mais c'est celui qui a quand même fait le succès de Vendredi Frisson, hein, notre expert en paranormal. Vous l'attendiez avec impatience, il est de retour rien que pour vous. Du coup, Théo, qui ne peut malheureusement pas être présent.
Il sera virtuellement là.
Il sera virtuellement là. Donc c'est
mais pas que là, virtuellement.
Vous entendrez son histoire. Malheureusement, il ne sera pas physiquement présent pour les actualités et pour mon histoire. Mais c'est pas grave, il est quand même avec nous dans notre cœur. Alors, il faut savoir qu'à notre grande surprise, Vendredi Frisson est l'un des épisodes qui a fait le plus gros score d'audience. C'est-à-dire l'un des épisodes qui a été le plus écouté depuis la création du podcast. Et voilà, quoi, on est assez surpris, parce que c'était quand même un épisode un peu hors série. Et comme on est avide d'argent et qu'on s'est dit qu'on allait faire une suite, et ben,
et
on est
là, voilà.
Je parle bien évidemment des producteurs chez Disney avec Hocus Pocus 2, qui est disponible sur Disney+. Oui, du coup, c'est les actualités, ceux qui n'ont pas capté la transition. Novembre après le premier film, une suite est disponible exclusivement sur leur plateforme. C'est une grande mode chez eux maintenant.
Après, tout est un peu exclusif dans toutes les Netflix, Prime. Mmh.
J'ai pas encore vu le film.
Bah,
comme tout le monde autour de la table, du coup, comme toi, Jordan. Et pourtant, Hocus Pocus est un film qui a été important, on peut dire. Enfin, pas pour le cinéma, mais en tout cas pour le jeune Elio Jaco qui découvre sa cinéphilie, on va dire. Il fait partie de ces films doudous de l'enfance, je pense que tout le monde en a. Bon, il y avait Monstres et Compagnie, Georges de la Jungle, du coup Hocus Pocus. Point commun entre tous ces films, c'est qu'ils sont tous sur Disney+.
Il déteste Disney, mais il aime, et dans son cœur, et dans son rein, il aime Disney.
Et donc j'étais un très grand fan de Hocus Pocus, j'avais même le jeu de société.
Il y avait un jeu de société
Oui, j'avais un truc, c'était un jeu de cartes.
Ah, un jeu de cartes, oui.
Ouais, c'était pas incroyable.
C'était pas incroyable.
Et je suis dégoûté qu'il passe par la case suite, en fait. C'est ces films importants que tu aimes et qui passent par la case remake ou suite, et tu sais qu'ils vont perdre de leur magie et...
Après, souvent, il y a cette mode-là de faire des films, une fois, et 20 ans après, d'en refaire, ou bien des séries, comme il y a eu Friends, il y a beaucoup de choses, comme là, il y a l'annonce de Malcolm, une suite ou de nouvelles saisons, ou peut-être juste une seule, je ne sais pas si c'est une ou plusieurs saisons, mais il y a ce truc-là de de voir comment les acteurs ont évolué. Après, ça fait toujours du bien de revoir. Après, je ne sais pas, on n'a pas vu le film.
29 ans après le premier film, ça fait beaucoup.
Je pense qu'ils auraient dû attendre 30 ans.
Et je suis un peu dégoûté qu'on n'arrive plus à créer des nouveaux univers originaux, mais qu'on essaye de créer des nouvelles histoires, des nouveaux univers originaux, bah ça se casse la gueule. Genre, par exemple, The Northman, tout simplement, The Northman qui a été, tu sais, genre, une proposition assez, assez radicale de, on va créer un nouvel univers, enfin, pas un nouvel univers étendu saga, mais on va créer, oui, un nouvel univers de nouvelles histoires, tout simplement, de nouvelles façons de les raconter, avec des nouveaux personnages, des lieux et des mythologies qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et en fait, le film The Northman, aussi bon qu'il soit, parce qu'on l'a vu au cinéma, il me semble,
ouais.
Et bah, il s'est planté. Je veux l'imitation du planté.
The Northman, c'était le film qu'on avait vu où il y a les peu vikings.
C'est ça, c'est les vikings.
Que j'avais un doute.
Ouais, bah, c'est ça.
Ça fait un peu longtemps qu'on l'a vu, mais oui.
Et du coup, je veux savoir...
Il y avait un objectif de faire une saga...
Pas une saga, mais en fait, on avait l'objectif... En fait, il y a eu énormément de budget qui était mis là-dessus, parce qu'on s'est dit, on allait créer un nouvel univers original. On va créer un nouveau truc, pas de suite, remake, parce qu'on met plus facilement de l'argent dans des suites et des remakes que dans des nouveaux films. Et là, ça a été le
produit par Sony ? Ou pas ? Par qui ?
Par A24, il me semble.
Tout le monde connaît A24.
Attends, mais oui, mais A24, c'est un très grand studio. Ah non, c'est Focus Features. Ok, bah ça reste dans le même délire de...
Qui est Focus ?
En fait, c'est parce que... en gros, Robert Eggers, qui a fait le film, c'est un des réalisateurs de A24. Et A24, c'est une boîte de prod qui fait des très bons films, mais qui les distribue ultra mal, ce qui fait que leurs films se plantent la figure. Il y a eu A Ghost Story... Il y a eu The Green Knight, il y a eu récemment Everything Everywhere All at Once. Enfin, et en gros, ce qui est drôle, c'est que ils ont peur que les films se plantent en France, donc ils les distribuent très peu en France, et donc bah, les films se plantent en France, ils sont très peu distribués. c'est très bon. Du coup, ils ont distribué de moins en moins. Et donc, je pense au budget, il y a 24.
Parce que du coup, The Northman, ça fait dans la catégorie des films.
On s'est dit, on va
faire. De petits films indépendants.
Ça reste quand même...
Il y a quand même des gros acteurs dans le film.
Mais indépendant plus dans l'idée qu'au moins il n'y avait pas eu l'énorme cahier des charges de chez Disney ou Sony.
Oui, c'est un peu hors des gros studios qui produisent, qui font un film, après un autre. Ils ne sont pas dans l'objectif de faire un bon film, ils sont dans l'objectif de faire plein de films qui vont faire beaucoup d'argent.
C'est ça.
Et du coup, c'est dans un moins gros cahier des charges de réussir à faire revenir du monde. Mais d'un côté de qualité un peu, je pense, j'imagine. En vrai, c'était Grossman, j'avais bien apprécié.
Ah oui,
dommage qu'il n'y ait pas de suite ou de...
Bah non, parce que le film, il s'est planté hein, quand même.
Non, mais c'était un bon film. Moi, je trouvais de retrouver les personnages, ça aurait été bien.
Ouais, bah après, ils sont morts.
l'univers, le spoiler. T'as spoilé les gens, moi, je voulais les faire aller voir. Et voir le deuxième, qui n'existera jamais.
Et du coup, je voulais savoir, est-ce que toi aussi, t'as un film un peu doudou de ton enfance qui a eu une suite et qui... T'étais dans le même état, donc moi, en mode, c'est triste, enfin, c'est...
Après, je me rappelle...
Des suites qui te dégoûtent.
Bah, en fait, toi, j'avais Bob l'éponge, le film. Hey, mais c'est de l'enfance, on est... T'es, toi, le vieux film où Bob et Carl... Je me suis mis Carl, je sais plus.
Carlo
Pas Carlo, du coup. l'étoile de mer.
Je sais pas,
moi. Ça fait longtemps. Et tu vois, j'avais toujours ce film-là que j'avais bien apprécié. Et là, de voir... Il va se contenter avec la voix de Squeezie, tout ça, en mode super-héros, je sais pas quoi.
Oui,
et ils avaient fait une suite et j'étais en mode, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi ils deviennent des super-héros? Ils se transforment? Moi, j'aimais bien le film d'avant, en plus, déjà, j'avais joué aux jeux vidéo.
Ah oui, carrément.
Il y avait eu sur PS2 le jeu.
Mm-hmm.
Et en vrai, j'ai super bien apprécié. En vrai, ça m'avait un peu déçu, tu vois, de voir un peu ce côté super-héros. Forcément, mettre le côté où là, t'as Bob l'éponge qui se transforme en machine, je sais plus, ça fait longtemps.
Je
veux oublier ce film. Il y a vraiment ce côté-là où de refaire, et tu dis, mais en vrai, c'est. Après, en général, dans les dessins animés d'aujourd'hui, je sais pas, c'est peut-être parce que mon regard un peu plus grand, mais je trouve que les dessins animés d'aujourd'hui sont moins bien que les films, les dessins animés que j'ai vus pendant mon enfance.
Mais dire que c'était mieux avant, en fait.
Avant.
On t'installe d'aigritude qui est assez...
Ça, je suis aigri.
Tu es aigri et vieux, Jordan.
Je ne comprends plus les jeunes de 4 ans.
C'est quoi ça, TikTok, Instagram?
Non.
D'ailleurs, j'en profite, parce qu'on est quand même dans Vendredi Frisson.
Voilà.
Pour poser cette fameuse question, c'est quoi ton film d'horreur préféré? Question qui provient du film Scream, tout simplement, avec la célèbre scène d'introduction, même pas d'introduction, en fait, de toutes les scènes, où le tueur s'amuse à demander, à poser cette question. Et quand j'y ai réfléchi, je me suis dit, c'est compliqué comme question. C'est déjà, je n'arrive pas à décider quel est mon film préféré, parce que j'en vois beaucoup.
C'est vrai qu'un film préféré, c'est compliqué à dire. Après, souvent, c'est un film qui nous a marqué notre enfance ou un moment de notre vie.
Ouais.
T'es, pour moi, mon film préféré hors du coup film d'horreur, t'es, c'est Gatsby le Magnifique, parce qu'il m'a fait découvrir Leonardo DiCaprio, tout ça. Et du coup, ça m'a marqué. Le film n'est pas forcément le meilleur des films, tu vois. C'est pas un film qui va marquer beaucoup de monde. Mais en vrai, moi, il m'a fait découvrir Leonardo DiCaprio. Qu'après, j'ai vu d'autres films. J'ai vu d'autres films de Leonardo DiCaprio. Mais vraiment, ce film-là m'a marqué. Et du coup, pour moi, c'est mon film préféré. Après, c'est moi qui le décide. Mmh. Et est-ce que c'est le meilleur film du monde? Je pense pas.
Ton film préféré n'est jamais le meilleur film.
Oui, c'est ça. C'est quelque chose de personnel, je pense.
Ou en fait, il faut partir du principe qu'un film préféré est un point de départ et non d'arrivée. Moi, je sais que je me suis toujours dit, oui, mon film préféré, c'est The Dark Knight de Christopher Nolan. Oui. Sauf que The Dark Knight n'est pas mon film préféré de Christopher Nolan, parce que c'est Interstellar. Et surtout, Christopher Nolan n'est même pas mon réalisateur préféré, parce que c'est Edgar Wright. Et du coup, je me dis, mais à quel moment The Dark Knight peut être mon film préféré? Parce qu'en fait, après, j'ai découvert le cinéma de Nolan, et après, je me suis intéressé un peu plus.
Oui, c'est un peu un point de départ. C'est comme moi avec Leonardo DiCaprio. Toi, t'as découvert ce premier film que t'as beaucoup marqué, que t'as beaucoup revu.
Oui, beaucoup trop même.
Mais oui, je pense que c'est personnel, et c'est pas forcément... le film le plus parfait, le c'est pas la perfection, un film préféré, c'est plus personnel et à un moment de sa vie quand on commence à regarder des films ou
Et du coup, ça renvoie à la question de c'est quoi ton film d'horreur préféré. Donc je pense Jordan va moins galérer que moi parce qu'il a vu beaucoup moins de films que moi.
Après, j'ai quand même quand je regarde des films d'horreur avec toi souvent, même exclusivement, que je suis pas friand de regarder des films d'horreur. En fait, j'apprécie un peu tous les films parce que j'ai un peu un filtre avec toi où toi, tu ne me montres pas forcément des films mauvais. Tu vas pas me montrer. Si, tu m'as montré un film que tu n'es pas. T'es le truc où t'as le. Je sais pas, quelqu'un te suit et du coup ça.
Ah, It Follows?
Oui, It Follows, je sais pas.
Il est incroyable, It Follows.
C'est pas un des meilleurs films que tu m'as montré que j'avais apprécié le plus.
C'est pas, ouais.
Mais généralement, tu m'as montré Scream, Conjuring 2.
Ouais. Les Griffes de la Nuit aussi, je crois.
Les Griffes de la Nuit, on avait vu, du coup, le... avec Johnny Depp, là.
Oui, les Griffes de la Nuit.
Voici ma culture. En film d'horreur. Et du coup, j'avais beaucoup apprécié Scream, pour son côté un peu drôle, parfois, et un peu... En fait, ça fait pas vraiment peur, en vrai. Ça fait peur, parfois, mais c'est pas... à vouloir absolument te faire peur, c'est un peu dans un peu le décalé, tu vois. Tu vois Scream passer à l'arrière de la caméra, t'es en mode... C'est un peu au côté drôle, tu vois. Et après, en vrai, je dirais Scream comme ça, tu vois. Mais la généralité des films que tu m'as montré, j'ai bien apprécié, tu vois. Et toi, maintenant, quel est ton film préféré?
Alors, faut savoir que moi, j'ai toujours été un grand fan du cinéma de genre, hein. J'ai vraiment grandi avec le cinéma horrifique, en fait. Faut que Jordan regardait Bob l'éponge. moi, je me tapais Saw 4 ou je sais pas trop quel autre film.
Après, Bob l'éponge, j'étais plus vers l'âge de 6, 8, 7, 10 ans.
Ouais, je regardais Massacre à la tronçonneuse à 6 ans.
Non, je comprends pourquoi t'es aussi bizarre.
Et je pense que, comme Jordan, je dirais que mon film d'horreur préféré est Scream. Enfin, en tout cas...
On a très original dans la pièce.
Je vais expliquer pourquoi. En fait, j'ai découvert le cinéma d'horreur avec les slashers, comme beaucoup de gens. Donc, les slashers sont des films avec des tueurs masqués qui tuent des adolescents qui ne sont pas masqués, eux. et en fait, il faut savoir que Scream a été une révolution parce que ça joue assez habilement avec les codes. Et quand t'es un grand fan du cinéma d'horreur, ça devient ultra ludique. Parce qu'en fait, le slasher, c'est très codifié. T'as un tueur qui est masqué. T'as des adolescents qui font la fête, qui sont tués un par un. Il faut qu'il y ait des morts assez gore. Et il faut que t'aies la peur de se dire, attends, est-ce qu'il est là derrière l'armoire? Et généralement, il était derrière l'armoire. Grosso modo. Ouais. Et en fait, là où ça devient une révolution, Scream, oui, en fait, on va parler de Scream, voilà, sur cette phase d'actualité, c'était pour ceux qui n'ont pas compris. Et là où ça a été une grande révolution, Scream, c'est que ça vient reprendre les codes du cinéma parce que le tueur, il a vu les films. Donc, ça vient briser le quatrième mur. Le film Vendredi 13, bah, le tueur, il l'a vu. En fait, ça se passe
plus. Et il y a même les gens qui se font tuer, qui ont vu les films et qui disent en mode « Ah, c'est toujours celui comme ça qui meurt, je sais pas quoi. » Je sais plus, je sais plus dans Scream 1 où ils regardent un film d'horreur et ils se font tous tuer un par un et de l'autre, ils regardent et ils rigolent ou je sais plus.
Ah oui, c'est dans Scream 1.
Du coup, t'as un côté où ils rigolent un peu des films d'horreur, un côté un peu décalé.
Et en plus, c'est donc derrière la caméra, c'est Wes Craven. Wes Craven, il a été le papa en fait des slashers au moment, enfin bah, pas le papa mais l'un des, on va dire un oncle quoi. Ça a été l'oncle rigolo des slashers. Il a quand même proposé La dernière maison sur la gauche, La colline à des yeux et surtout Les griffes de la nuit.
La colline à des yeux, on a vu ça.
Oui, t'as vu la version d'Alexandre Aja, qui est meilleure que la version de Wes Craven. J'ai même rien pour ça, je m'en fiche. Et en fait, il vient s'amuser avec ça en brisant le quatrième mur, et c'est assez ludique du coup. Ceux qui n'ont pas vu le film, je sais pas si. Je sais que j'ai beaucoup montré ce film à des gens qui ne connaissaient rien au cinéma d'horreur, et ça a toujours été une grande révolution. Enfin, une grande révolution, ils ont toujours apprécié parce que c'est mieux si t'as vu tous les films d'horreur avant, parce que ça va te surprendre. Parce que le tueur, il était pas dans le placard finalement, mais tu peux aussi découvrir. Tu peux aussi découvrir, parce que ça vient te raconter un moment l'état du cinéma d'horreur, comment il a été. Ça a quand même une réflexion sur le slasher. Et puis c'est drôle, parce que, enfin, c'est drôle parce que bah, ça reprend les codes du burlesque, donc avec un tueur qui n'est pas monstrueux. Parce qu'avant, les tueurs, c'est Jason, Michael, tu vois, genre c'est vraiment des gros mecs bien baraqués qui avancent lentement et tu sais, genre tu peux pas les arrêter. Lui, bah, il se prend des coups de pied, il tombe des escaliers. Enfin, genre, en fait, c'est parce que. Chose importante, là, le tueur, il ne cache pas le monstre derrière le masque, il cache l'identité du tueur. Et donc, ça part sur un cluedo woodonite. Voilà, c'est le nom, le woodonite, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc, voilà, je profite de cette actualité pour vous dire, regardez Scream, en fait, tout simplement. Si Jordan, il a beaucoup aimé, c'est que...
J'ai aimé.
On va dire dans l'oreillette que c'est son film d'horreur préféré. Non, par contre, c'est drôle parce que Scream, c'est vraiment le film qui met tout le monde d'accord. À chaque fois que je le montrais à des soirées avec des potes, on regarde des films. Chaque fois que j'ai montré Scream, ça a toujours été unanime.
Ce qui veut dire que tu l'as beaucoup vu.
Je l'ai beaucoup vu. Bon, à la fin, quand tu sais qui est le tueur et que tu l'as revu 11 fois, pense, ça te fait moins rigoler de te dire ouais, il est où c'est qui le tueur. C'est comme le dernier film Scream, qui n'est pas incroyable, et tu vois en plus le tueur venir à 3000 km, et c'était lui, et tu te dis non. Pourquoi ?
Oui, je l'ai toujours pas vu.
Ce qui est bien avec le premier film Scream, c'est que dans tous les cas, tu auras tort. Peu importe à qui tu penses, tu n'auras pas raison.
Ah, du coup, c'est faux ce que tu dis.
De quoi ?
Du coup, il y a le 5 qui existe.
Non, non, j'ai tort. Non, le premier film, je parle. Après, les autres, ouais, c'est plus compliqué. Mais en tout cas, le premier film, peu importe à qui tu penses, tu auras tort parce que l'enquête, elle est trop bien. Enfin, tout est incroyable dans ce film. D'ailleurs, avant de finir ces actualités, c'est l'instant promo. J'en profite pour vous dire de nous suivre sur Instagram. Pourquoi il faut nous suivre sur Instagram, Jordan ?
Je ne sais pas.
Non, non. Bah, c'est pour ça que je te pose la question, Jordan. Est-ce que tu peux avoir une idée de ce pourquoi nous faire. Là, c'est en fait personne de nous deux peut parler du compte Instagram. Bah, je vais en parler. Bah, déjà, tous les jours, on y organise des petits jeux. Donc, c'est assez cool.
Sorcier, il n'y a pas trop de jeux.
Ah, c'est drôle.
C'est vrai que je ne comprenais pas ta question. Je dis, tu passes pas beaucoup, Sorcier. Pourquoi, Elliot?
Je dois vraiment expliquer pourquoi.
Je sais pas, il y a un petit contexte.
En gros, j'ai juste mon téléphone est juste tombé en panne. Et le temps. En fait, en gros, je peux me connecter à Instagram que sur ce téléphone-là. Parce que quand j'essaie de me connecter à un autre appareil, il me dit non, il faut que tu valides sur l'autre téléphone. Et donc, pour l'instant, il n'y a pas énormément de jeux, quoi.
Si vous voulez vous amuser, c'est pas ici pour le moment.
Mais en tout cas, en général, on y organise tous les jours des petits jeux. Et en plus de cela, vous pourrez être mis au courant de la fréquence de sortie des différents épisodes.
Tu veux dire une fois tous les 6 mois. Non, on va essayer de faire une fois tous les 3 mois maintenant.
Nous sommes déjà une petite communauté, hein. On est genre 11. mais n'hésitez pas à nous rejoindre et pour ainsi faire partie de la Vendredi Corporation, hein, on va le dire.
Je pense pour travailler le nom.
D'ailleurs, n'hésitez pas non plus à nous noter 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez. Vous aidez au référencement du podcast et ce n'est pas rien. Ça vous prend 10 secondes et pour nous, ça nous aide beaucoup à être mis en avant, à mettre en avant notre contenu. Et voilà, nous vous remercions, ceux qui vont le faire et ceux qui ne le font pas. Malédiction sur vous et toute votre famille. On se sort d'Halloween. On est Halloween justement et actuellement en salle, vous pourrez retrouver Halloween. Halloween Ends, plus précisément le dernier volet de la saga de la trilogie de David Gordon Green après Halloween et Halloween Kills. J'ai dit beaucoup de fois Halloween comme dans la même phrase. Et nous étions censés être deux à l'avoir vu autour de cette table. Malheureusement, la deuxième personne n'est pas là. Et cette personne avait beaucoup rigolé. Du coup, j'attendais son avis sur la question. Mais je vais parler du film à sa place. C'est génial. Lordan, t'as pensé quoi de Halloween Ends? Il ne l'a pas vu. Alors, pourquoi il faut voir Halloween Ends au cinéma? Toujours un slasher. Hein, voilà, c'est l'actualité que des slashers, hein, visiblement. Le film se fait démonter par la critique. Tout le monde le déteste, c'est unanime. Alors que bah, c'est un bon film, en fait. C'est un bon film. Je pense que dans la saga Halloween, c'est l'un des partis pris les plus risqués que j'ai vu. Parce que déjà, en fait, Halloween, le succès d'Halloween, c'est quand même son tueur, Michael Myers, c'est avec le masque et le couteau de cuisine. Et tu le vois vraiment genre une minute à l'écran, je pense. Parce que ils sont partis sur autre chose. La saga Halloween, ça a toujours été le bien contre le mal. Laurie Strode d'un côté, la survival girl, contre Michael Myers, qui est le mal, en fait. C'est vraiment ça. Et là où c'est intéressant, c'est que là où avant, c'était deux forces distinctes, il y a le bien et le mal de chaque côté, ici, ils viennent à ajouter une nuance qui est plus réaliste, partant du principe que le bien et le mal, en fait, c'est pas genre deux forces distinctes, c'est deux forces qui se complètent. Ça subsiste en chacun de nous. Et comment, par nos choix et par la société, on est amené à tendre plus ou moins vers l'un des deux. C'est un film brillant, Jordan, je t'encourage à le voir.
Du coup, c'est une suite au premier film avec... ou c'est une autre saga.
Et toi, t'avais vu le premier film de David Gordon Green? C'est parce qu'à la base, c'est les Carpenters qui avaient fait Halloween. Et après, il y a eu plein de suites. Et David Gordon Green, il a fait un remake en 2018. Donc, tu as vu, parce que je t'avais montré l'année dernière à Halloween. Et donc là, c'est le troisième film de cette trilogie. Du coup, c'est avec
l'acteur, là, comment il s'appelle déjà? Pour le jouer, celui qui joue Myers.
Bah, il n'a pas de visage.
C'est pas lui. Du coup, c'est dans l'ancien film ou du coup, c'est... je sais pas. Je confonds peut-être.
Je pense que tu confonds. Michael Myers, il n'a pas de visage, justement. Tu ne sauras jamais son identité.
J'ai un peu oublié. Après, moi, je suis...
Enfin, si, c'est Michael Myers, son identité, mais tu verras
pas
son
visage. Oui, c'est ça.
C'est justement parce que c'est le mal, et le mal,
il n'a pas... Parce que c'est pas un truc en mode... le tueur revient toujours à la fille, ou...
Oui, le tueur revient toujours à la vie. Enfin, Michael Myers revient toujours...
Ah oui, c'est le truc où il l'enferme dans une cave, un moment, ça explose, ou c'est pas du tout ça?
Oui, entre autres. Que... Oui, c'est ça.
Oui, et du coup, ça c'est le premier film du remake.
Ouais, c'est ça. Et là, c'est celui dont je parle, c'est le troisième film, et qui est plutôt bien et qui se fait déboîter, et ça me rend un peu triste parce que c'est un parti pris risqué en fait qu'ils ont fait. Et bah du coup, si vous êtes un grand fan d'Halloween, pas comme moi, vous serez déçu, c'est sûr. Mais si comme moi vous connaissez la saga, que vous a pas spécialement marqué
et que vous regardez... marqué les os.
Non, parce qu'à la base c'est comme les films de Carpenter qui sont cultes parce qu'ils ont quand même lancé le genre du slasher. Enfin, ils ont popularisé le genre du slasher en tout cas. Et sauf que moi j'ai jamais été un grand fan en vrai Michael Myers. Vraiment entre Michael Myers, Ghostface, Jason, bon, enfin voilà, je préfère les autres slashers que Michael Myers, mais il existe et c'est quand même un visage important du cinéma horrifique. Et là en fait c'est vraiment le parti pris ici de se dire ok, on va faire un film Halloween sans Michael Myers. Et voilà, dit comme ça vous allez pas trop comprendre, mais je pense que ceux qui... enfin, intéressez-vous à ce film, je pense qu'il peut vous offrir un très grand moment de cinéma avec un grand C comme citrouille. C'est terrible parce que j'ai dû écrire cette blague et quand je l'ai écrit, je me suis dit « Bah c'est super drôle en fait !» Bon, on a fait le tour de ces actualités qui ont duré beaucoup moins longtemps que la dernière fois. Et la fois, c'était vraiment juste les actualités qu'on a fait. Comme on est dans Vendredi Frisson, on va raconter une histoire terrifiante. Chacun son tour. Donc là, en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais raconter mon histoire, et puis après, Théo racontera la sienne. Et donc, Jordan décidera de qui gagne, tout simplement. Donc, je sais que ça... En fait, pour décider quelle est la meilleure histoire, t'as plusieurs critères. Enfin, ouais. C'est pas...
Oui.
Et quels sont ces critères, en fait, justement?
Mon premier critère, c'est l'originalité de l'histoire. Du coup, si l'histoire est originale, si... Je trouve que si c'est un peu, tu vois...
déjà vu, en mode...
Déjà un peu déjà vu, tu vois. Ensuite, ça serait l'interprétation de la personne, si elle raconte bien. C'est... Ensuite, ça sera mon avis, si j'ai apprécié l'histoire. Ce qui sera très, très cool, quand même.
C'est assez subjectif. Mais...
Et ensuite, un peu la peur. Pour Du coup, ce sera...
Le trouillomètre, quoi.
Oui, c'est ça. Si c'est un rêveur, si j'ai frissonné en vendredi frisson.
Comme l'année dernière, on ne va pas interrompre les histoires des autres. On va se laisser parler. On va aussi baisser légèrement le timbre de voix et se rapprocher un peu du micro pour avoir une ambiance un peu coin du feu, histoire paranormale. Et donc, je vais commencer avec mon histoire. Vous aviez beaucoup aimé l'année dernière l'histoire que je vous avais racontée. J'ai eu quelques retours, 2-3, c'est déjà beaucoup en vrai. Ce qui m'a fait plutôt plaisir. Le plus terrifiant dans l'histoire étant que je vous ai laissé dans un doute, qui est-ce que c'est une histoire vraie ou pas? Et c'est ce doute qui était le plus terrifiant de vous laisser en suspens. Et ça m'a beaucoup fait rire de me dire que certains réfléchissaient à cette histoire en disant « est-ce que c'est vrai ou pas ?» Et aujourd'hui, je vais réitérer l'expérience en vous laissant de nouveau le doute. Cette histoire, ce n'est pas n'importe laquelle, parce que c'est celle de Alexei. Un jeune travailleur de 20 ans, engagé dans une mission qui semblait pourtant sans danger, mais qui s'avérera être un véritable cauchemar. Accrochez-vous bien, car je vais vous raconter la terrible histoire de la créature des profondeurs. Je m'appelle Elliot Jaco, et bienvenue dans Vendredi Frisson. Nous sommes en 1985, dans le régime de l'URSS, plus précisément en Bulgarie, qui ne faisait pas partie de l'URSS, mais qui était tout de même très proche du régime en place. Alexei Vyacheslav a alors 20 ans. Il est issu d'une famille ouvrière assez pauvre, et donc obligé de travailler pour aider à subvenir aux besoins de sa famille. À cette époque, tu n'as pas trop le choix. Soit tu travailles sur des chantiers en tant qu'ouvrier, soit tu ne travailles pas. On est en pleine expansion de l'URSS, dans cette guerre d'ego contre les États-Unis, et donc beaucoup de chantiers se mettent en place dans une course à la modernisation. Et c'est à ce moment-là que Alexei voit passer une annonce. On recrute une équipe de 200 personnes pour aller en mer sur une plateforme pétrolière en mer d'Okhotsk, au large de la presqu'île du Kamtchatka, à l'est de la Russie. Ni une ni deux, Alexei fait ses valises et part en direction de la Russie. Il racontera qu'il ne regrettait absolument pas ce choix. En effet, la Russie à cette époque-là était comme l'épicentre de l'URSS, et donc il avait ainsi la possibilité de pouvoir améliorer ses conditions de vie. Meilleur boulot, mieux payé, etc. Il embarque alors dans un énorme paquebot et première chose qu'il constate, il fait froid, il fait très froid. Nous sommes le 8 avril et la température extérieure peut atteindre jusqu'à moins 10 degrés. Mais il voit au loin le mastodonte, le Beryl Hawk 1, une immense plateforme pétrolière. C'était la première fois de sa vie qu'il voyait un titan pareil, 185 mètres de long pour 50 mètres de large. Mais étrangement, ce n'était pas si grand au milieu de cette mer, un peu comme un petit rocher perdu au milieu de l'océan. Une fois dessus, tout le monde s'active, on n'a pas une minute à perdre. Des scientifiques, des ingénieurs, des gens en costard bien habillés, tout le monde s'excitait. En effet, ils n'étaient pas sur n'importe quelle plateforme, car elle avait une mission bien singulière, creuser jusqu'au centre de la Terre. Alors, je dis ça comme ça, effectivement ça peut paraître étonnant, mais ça ne l'était absolument pas à l'époque. On est en pleine course contre les États-Unis. Je vous rappelle que eux, ils avaient envoyé en 1969 le premier homme sur la Lune, et il fallait répliquer. Ils ont visé les étoiles, nous, on va atteindre les profondeurs de la Terre. Ils avaient notamment déjà essayé en 1970 dans la péninsule de Kola et avaient réussi à atteindre une profondeur de 12 262 mètres, qui est assez raisonnable. J'avais hésité à vous raconter cette histoire d'ailleurs, que l'on surnomme le puits de l'enfer, car il s'était passé énormément de phénomènes qui sont encore aujourd'hui inexpliqués, peut-être dans un prochain Vendredi Ciné. Donc après le fiasco qu'a été ce forage en 1970, il décide de réitérer l'expérience 5 ans plus tard, cette fois-ci en mer. Mais une chose est sûre, c'est qu'ils n'apprennent pas de leurs erreurs. Le forage commence et tout se passe bien. Alexei est affilié à la branche mécanique, donc tout ce qui est réparation de matériel et vérification de l'état de la foreuse. Il devait noter toutes les heures dans un parapheur, enfin dans un petit cahier, ses constats et remarques qu'il devait ensuite transmettre à ses supérieurs directs. Et c'est pourquoi on a autant de détails sur ce qu'il s'est passé. La foreuse, voilà, elle est en marche, tout va bien, elle continue de percer à la croûte terrestre, mais un jour, Alexei remarque quelque chose d'inhabituel. Il entend un étrange bruit qui ne semble pas provenir de la plateforme, mais bien des fonds marins. Il décrit cela comme un mélange entre un rugissement et une grande porte en métal qui coince. Je vous laisse imaginer à quoi ressemble ce bruit et surtout l'état de stupeur d'Alexei à ce moment-là. Mais il n'y prête pas forcément attention, pas parce que ce n'est qu'un bruit tout simplement. Et le temps passe et les jours défilent et cet étrange bruit revient plusieurs fois. Et là, il s'inquiète un peu plus parce que c'est pas le fait que le bruit revienne qui l'inquiète, c'est le fait qu'il soit de façon répétée. Il revenait toujours de plus en plus fort et ce n'était pas un bruit continu, c'était un bruit court qui revenait plusieurs fois, ce qui pouvait signaler un problème avec la foreuse. Donc là, il prévient quand même ses supérieurs, ses directeurs en charge de l'expérience, mais eux ne semblent pas préoccupés. Mais pas parce que ce n'était pas normal. Effectivement, ce n'était pas normal. Cette découverte concordait parfaitement avec une autre. Les sonars ont détecté une gigantesque masse sous la plateforme qui tourne autour de la plateforme. Et du coup, ils ont conclu qu'il s'agit d'un sous-marin. Tout à fait normal, mais plusieurs questions se posent. Pourquoi les États-Unis enverraient un sous-marin ici, enfin dans ces eaux sombres et glacées, on ne peut rien voir, et puis même pour des renseignements, on peut infiltrer la plateforme, tout simplement, ça aurait été beaucoup plus utile. Surtout que, il semblait pas hostile, enfin normalement t'envoies ainsi ta main à un sous-marin pour attaquer, là il tournait mais n'attaquait pas. Encore plus étrange car ces machines sont censées être indétectables, et malgré le fait qu'ils n'aiment pas les Américains, ils sont quand même assez doués pour savoir comment ne pas se faire détecter. En tout cas, pas aussi facilement. Il stoppe donc à quelque temps la foreuse avant de recevoir l'ordre de continuer. Donc ils reprennent la foreuse, ils sont là pour faire peur, mais nous on n'a pas peur d'eux, donc on va continuer. Le forage reprend donc. Quand j'ai dit qu'ils essayaient d'atteindre les profondeurs de la Terre, ce n'était pas totalement vrai. Ils savent très bien que atteindre le centre de la Terre, c'est impossible. Eux, ils visaient un objectif de 15 000 mètres. Afin de traverser la croûte terrestre et ainsi accéder au Mo'o pour mieux comprendre sa composition et les mécanismes internes de la Terre. Donc les épicentres sismiques, les plaques tectoniques, tout ça. Le Mo'o, pour ceux qui ont fait un peu d'SVT, c'est là où justement se déclarent notamment les séismes, tout ça. Je suis pas un professionnel, mais je pense que vous en avez déjà tous entendu parler. C'est une couche en tout cas. Une nuit, Alexei, par contre, se réveilla en sursautant, ainsi que l'ensemble de l'équipage des 200 personnes qui étaient présents. Un bruit sourd et strident parcourait l'ensemble de la plateforme, comme des griffes qui gratteraient sur un mur en métal. On enregistre alors des dégâts critiques sur la foreuse qu'il fallait réparer. Petit problème parce que leurs meilleurs amis des Américains sont encore sous la plateforme, toujours en train de tourner. Donc un bateau est envoyé en reconnaissance à travers le brouillard pour essayer de scanner plus précisément ce qu'il se passe en dessous. Et une chose est sûre, ce n'était pas une machine dans les profondeurs, c'est bien vivant. Le déplacement de cette chose est trop incertain, ça bouge beaucoup trop rapidement et surtout c'est beaucoup trop gros, on parle quand même là d'une créature de 20 à 30 mètres. L'équipage est déboussolé, il faut tuer cette chose. Une équipe de 50 personnes, du coup de la plateforme, c'est immense 50 personnes, est envoyée sous l'eau et parmi elles, Alexei qui notera tout ce qu'il a vu dans son carnet. Et justement, il ne verra pas grand-chose. L'eau est gelée et on ne voit absolument rien, même avec des phares de plongée. En revanche, il notera plusieurs choses. L'une des foreuses a été entièrement arrachée, et sur l'autre, on peut observer des énormes traces de lacération contre la paroi. Pas des morsures, vraiment des traces de lacération, des griffures. Comment vous dire qu'à ce moment-là, Alexei, il n'est pas spécialement très à l'aise, et plus il s'enfonçait dans les profondeurs, plus les ténèbres se propageaient. Il était complètement livré à lui-même au milieu d'un océan d'ombre, tout simplement. L'eau est gelée, il a perdu complètement ses repères, jusqu'à ne plus savoir s'il était à l'endroit ou à l'envers. En revanche, il sentait qu'il n'était pas seul. Il sentait qu'il y avait quelque chose qui rôdait. Parce qu'il pouvait sentir les variations dans le courant. À un moment, il aperçoit au loin, il distingue une masse sombre et gigantesque. Et C'est la première fois qu'il voit quelque chose comme ça. Il n'avait jamais rien vu de tel. Ce n'était pas une baleine, comme on pouvait le supposer avant, parce que déjà, elles ne vivent pas dans les eaux froides, et surtout, ça n'en avait pas la forme. Il est incapable de détailler plus précisément ce qu'il a vu, mais une chose est sûre, elle a un long cou. À ce moment-là, il n'est pas fou, en fait, il décide de remonter, en distinguant justement la chaîne qu'il a fait descendre. Sur les 50 personnes, seules 17 rejoindront la surface. Il n'y a pas eu de cris, pas de sang, rien. Les autres ont seulement été absorbés par les ténèbres. Et seul l'océan saura ce qui leur est arrivé. L'expérience prendra fin après ces lourdes disparitions. Alexei ainsi que d'autres survivants décideront de partager ce qu'ils ont vécu dans un livre appelé « Sustezo Isdrugugo Mira » qui signifie littéralement « la créature d'un autre monde ». Encore aujourd'hui, cette histoire fait beaucoup parler d'elle. On essaye d'avoir des explications rationnelles, mais face à la force et au nombre de témoignages, ça devient vraiment difficile de ne pas y croire. La zone fut donc interdite d'accès. Impossible au bateau d'y aller, ni même d'installer de nouvelles plateformes. Quant à un baril Hawk 1, ça existe toujours, et la pauvre plateforme a été laissée à l'abandon, emportant avec elle tous les fantômes du passé. D'ailleurs, en 2011, il y a une autre compagnie qui a essayé d'installer une nouvelle plateforme. C'était il n'y a pas si longtemps que ça, hein, mais c'était bien longtemps après ces événements-là. Et cette plateforme a sombré en mer. Elle a tout simplement été engloutie dans l'eau. Cette fois-ci, c'est 7 morts et 49 personnes disparues, sans que personne ne sache pourquoi. Je vous laisserai chercher ça par vous-même sur l'internet. Personne encore aujourd'hui ne sait ce qui se passe dans ces eaux, mais gare à celui qui s'y aventure, car la créature rôde toujours. Nul ne sait ce qu'ils ont réveillé ce soir du 12 mai 1975, mais une chose est sûre, cette chose ne nous veut pas du bien. C'est la fin.
Ah là là. L'interprétation, comme l'année dernière, c'était parfait.
Ok.
À part 2-3 petits reprises, parce que du coup, t'étais pas. Mais sinon, dans le global, tu sais bien raconter l'histoire.
Ok.
Ensuite, dans l'originalité, je trouve que c'est assez original. Ça sort un peu de notre quotidien. C'est en pleine mer. Ensuite, dans mon appréciation à moi, qui est très importante, je me suis pas ennuyé à un seul moment. Et du coup, c'était assez captivant. Et ensuite, en termes de peur, on n'était pas super dans le côté horrifique.
Okay.
Et en fait, c'était captivant, c'était super bien raconté, mais en fait, je pense...
Sur le trouillomètre.
Je pense, tu vois, une petite vidéo avec où t'es en mode dedans un peu... bien si t'y étais là-bas, je pense que ça doit être... La maçon, elle doit te faire vraiment. Vraiment, tu vois une maçon en bouger, je pense. Ça te fait peur, mais à 100%. Mais vraiment, dans le côté. C'est super bien rendu. Mais du coup, juste ça. Du coup, je pense. Théo va devoir jouer sur la peur pour gagner des points et sur la façon de raconter.
Et d'ailleurs, ce qui me tue de rire, c'est que. Je pense, j'ai assez bien réussi comme l'année dernière à ne pas savoir si c'est une histoire vraie ou pas.
Je sens que c'est une vraie histoire, mais est-ce que. C'est les gens. En fait, la plateforme, elle doit exister. Cette personne-là, elle doit exister. Mais est-ce que ces gens-là ont vraiment raconté ça pour... Après, il y a le problème, c'est qu'il y a le... On est côté, en 2011, il y a la plateforme qui a... Mais du coup, attends. Ils ont disparu. C'est-à-dire qu'ils sont morts.
Est-ce que c'est vrai ou pas, mon histoire?
En fait, il y a le côté... tu sens que... comment il s'appelle? Alexei?
Ouais.
Tu sens qu'Alexa, il a existé. Tu te dis, forcément, Alexa, t'es une plateforme, tout ça. Mais après, le monstre, je sais pas, en fait, on sait pas si c'est un vrai animal qui existe ou c'est vraiment.
C'est ce que j'ai dit, en fait, c'est qu'il y a eu plein d'explications rationnelles qui pouvaient l'expliquer. Le sous-marin, la baleine,
ouais, ou n'importe quoi. Mais il y a rien qui.
Mais il y a rien qui prouve que c'était vraiment ça.
100%. Et même un sous-marin, c'est pas forcément. Vraiment. T'as 50 personnes qui vont dans l'eau. Après, les 50 personnes qui vont dans l'eau et après reviennent pas, ça, en pleine mer, je me dis, c'est un peu normal, vous allez tous dans l'eau. Surtout que 50 personnes dans l'eau. Vous êtes répartis sur combien de mètres dans l'eau? 4-4-2 bah, assez...
Surtout que moi, au début, je me suis dit, mais pourquoi ils ont pas tiré des missiles ou je sais pas. En fait, c'est parce que je suis débile, c'est parce qu'il y a quand même une plateforme en fait. Je suis dessus et tu peux pas tirer des missiles juste en dessous d'une plateforme. C'est pour ça qu'ils ont dû aller sous l'eau.
Mais... Ouais, c'est vraiment. Toi, tu peux te dire, c'est ancien l'histoire avec Alexei. Mais le truc de la plateforme de 2011, tu te dis, mais Non, mais j'ai juste une question. C'est des gens, quand, 7 morts et.
49 disparus.
49 disparus. Bah, ils sont tous morts. Ouais, ils sont sur une île déserte en mode Robinson Crusoe en train de faire leur. avec la masse.
En fait, ce qui est étrange, c'est pas que. En fait, c'est pas genre disparu. En fait, disparu, c'est que on sait qu'ils sont morts, mais qu'on retrouve pas leur corps. C'est que quand il s'agit d'une bête, en fait, par exemple d'un requin.
Mais comment on sait que cette personne sont mortes dans les 40. Quand on est sûr, du coup.
Bah, parce qu'on a retrouvé 7 corps.
Ah, d'accord.
Et il y a eu 49 par contre au disparu.
Ah oui, d'accord, je comprends.
Et en fait, ce qui
était. Parce que moi, j'étais en mode. Comment on sait qu'il y a 7 morts, du coup.
Ce qui est terrible, c'est que. Ouais, tu sais, genre, ça a toujours. C'est pas. En fait, normalement, quand t'as des attaques d'animaux, oui. Tu retrouves des corps. Là, faut se dire, cette personne, oui, on a retrouvé 7 corps. Sauf qu'il y a à peu près 200 à 300 personnes sur une plateforme pétrolière. Et en fait, elles sont vraiment absorbées. Elles n'existent plus. On ne retrouve aucune trace de ces gens-là.
Après, absorber, c'est un peu fort. Mais...
Enfin, moi, je dis absorber parce que c'est l'image.
Fort. Oui, c'est fort.
Mais en fait, on ne retrouve absolument pas leur corps.
Après, l'océan, c'est grand.
Oui, c'est un peu grand.
Je pense que je t'apprends pas ça. Parce qu'en vrai, aller pour chercher... Combien de personnes dans l'océan? Un peu la flemme. Ils sont pas remontés, ils sont forcément morts, je pense. Ah, ils sont dans une baleine avalée. Ouais. On va les retrouver à Miami 10 ans plus tard.
Ce qui est drôle, c'est qu'ils font toujours... Un petit thé. Tu sais, il y a eu... ils avaient, t'as vu, il y a eu en 1975, et ils se sont dit en 2011, bah oui, bonne idée, on va aller là où il y a eu l'accident.
Après c'était une plateforme pétrolière, j'imagine.
Ouais, mais enfin, c'est pas pour le pétrole. En fait, c'est plus pour le gaz. Ouais.
Ouais, le gaz. Après, je pense que c'est tout le truc de des entreprises. Ils veulent de l'argent. Et ça. Tu sais, c'est comme le triangle des Bermudes. Je sais plus si c'est encore de l'actualité.
Ouais.
Où, du coup, je pense que les entreprises, elles réfléchissent pas en mode c'est pas possible. Ça va faire beaucoup d'argent.
Et bon, aussi, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, au début, je voulais raconter l'autre histoire. En fait, pour atteindre, tu sais, le mot eau, ils avaient déjà essayé, comme j'ai dit, en 1970, chose comme ça. Et en fait, je me dis, mais en fait, ils sont maudits, parce que dès qu'ils veulent faire un truc où ils veulent creuser, ça se passe mal. Et en fait, là, c'était par contre...
Après, c'était pas réellement sur le fait de creuser, c'était plus le lieu à l'origine qui est un peu...
Là, en fait, en gros, avant, ils avaient essayé, par contre, sur la terre ferme, en fait... Et c'est pour ça que
c'est pas l'énorme carrière qu'ils avaient fait à un moment où
c'est ça c'est tu sais qu'on a atteint le plus
oui ça
voilà et en gros c'est et en fait là il s'est passé aussi tellement de choses mais là c'est beaucoup plus paranormal et c'est pour ça que je me suis dit on va peut-être raconter l'autre histoire qui est un peu méconnue et je me dis attends entre 1970 enfin ou 1975 et 2011 il s'en est passé du temps est-ce qu'on va réinstaller une plateforme pétrolière là-bas genre depuis 2011 il y a eu du temps.
Après, quand c'est un peu loin et que... Bah, Alexei...
Alexei, là, je sais même pas si j'ai encore envie, en vrai.
Ouais, je sais pas, peut-être. On invite Alexei. Bonjour, Alexei.
Sous je faisais Drogo.
Non, mais c'est tout le truc, je pense. Tu te dis que c'est un peu loin. C'est que toi, il y a des trucs qui se passent dans des maisons parfois. Et bah, t'as quand même des gens qui se réinstallent dans la maison et qui revivent des trucs un peu paranormaux. Ou bien il y a des gens qui vivent rien, je pense. Je sais pas. Moi, j'en sais rien. En fait, je sais pas si il y a des lieux en mode il y a 20 ans et c'était un peu paranormaux. Et aujourd'hui, tu t'installes, il n'y a plus rien. Que en fait, ouais. Je sais pas, il y a personne qui raconte ce genre d'histoire en mode bah là, il y avait avant un cimetière indien.
Et après, le mec, il détruit des portes avec des haches, quoi.
Et maintenant, on s'est installé, maison paisible, normale. Du coup, je sais pas si c'est possible, ça, d'avoir une présence paranormale. Et t'as des gens qui se réinstallent, il n'y en a plus. Je sais pas si c'est un truc permanent. C'est en mode, tu reviens dans 200 ans à un même lieu, il y aura forcément toujours des trucs un peu paranormaux.
Oui, après, à partir du moment où tu veux voir des choses paranormales, tu vas voir des choses paranormales.
Oh, la maison fait des grincements. Ce serait peut-être le parquet, hein. Pas des gens qui marchent.
Mais là, ce qui est drôle, c'est que c'est... je sais pas si on peut définir ça comme du paranormal.
Bah, en fait, c'est un peu... c'est un peu mystérieux, du coup. Ouais. Je sais pas, c'est quoi la définition de paranormal en
vrai. C'est pas des choses qui ne sont pas normales, donc...
C'est ça.
Et après, ils ont quand même appelé leur livre « La créature d'un autre monde ».
Oui, c'est ça.
Donc, a priori, ça viendrait d'un autre monde.
Il y a une adaptation Netflix de ça ou pas?
Netflix
On vient produire la...
Bon, donc maintenant, on va écouter l'histoire de Théo. Vas-y, Théo, bah, je t'en prie.
Ça t'a l'air.
Je t'en prie, Théo.
Le 10 mai 1982, l'entreprise Async commence à faire des tests pour entrer dans une animation avec tout d'abord pour nom la porte ou les backrooms. En avril 1988, le vice-président de l'organisation fait une conférence de presse pour préciser le but de l'entreprise, attirant les yeux du gouvernement américain. Le 2 juillet 1988, un test quasiment concluant laisse apercevoir pendant une ou deux secondes une porte vers le backroom. C'est le troisième test. Le 17 octobre 1989, l'organisation, en collaboration et avec les fonds du gouvernement américain après le troisième test, met en place le sixième test, cette fois-ci concluant. Le 3 février 1990, le premier contact avec les backrooms est fait et une personne nommée Nicolas Bolton, ayant disparu dans le monde réel, est retrouvée dans les backrooms entourée d'une auréole noire, ce qui indique que certaines personnes peuvent attirer dans les backrooms maintenant que Async a forcé l'accès. Le 5 février, les médecins autopsie le cadavre et nous remarquons que le personnel le moins qualifié ne savait ce qu'était les backrooms. Le 29 février, la deuxième expédition a lieu et un explorateur se perdra pendant quelques mois dans les backrooms. Le 5 mars, une créature a été détectée à côté de l'entrée des backrooms. Un technicien allant dans les backrooms suit des cris de la créature. En arrivant au niveau des cris, il vit la créature vue le 5 mars, mais beaucoup plus évoluée. Elle faisait environ 3 mètres et a des jambes et des bras très fins. Heureusement, l'employé a pu s'enfuir avant que la créature ne l'attrape. Le 8 mai, une vidéo de présentation devait sortir pour le public et les investisseurs, mais l'un des techniciens a ajouté la séquence où l'on voit l'explorateur revenir après 3 mois d'absence, ce qui fait abandonner le projet Async. Le 19 août 1995, une femme remarque un trou entre les deux réalités et se filme en faisant passer un mètre dans la faille. Elle s'élargit, la femme tombe et elle se fait tuer par la créature qui a beaucoup évolué depuis les expériences en 1990. Imitation de voix humaine, système de sport, enfin voilà, enfin du sport légère quoi. Le 23 septembre 1996, un homme fait un court-métrage et filme sa descente dans les backrooms et il se fait tuer par la créature. Le 10 septembre 2022, je retrouve la caméra de l'homme et de la femme. Je reprends des contacts avec d'anciens collègues de Async. Le 10 octobre 2022, à 22h, des hommes toquent à ma porte et me hurlent d'ouvrir. Le 11 octobre à 1h, je suis dans les locaux du FBI et ils ouvrent un portail vers les backrooms juste devant moi. Le 14 octobre à 12h, cela fait 3 jours que je suis dans les backrooms et je commence à avoir faim, peur et j'entends la créature à côté de moi.
Après délibération, il y a eu une histoire qui s'est un peu détachée de l'autre. Une histoire qui était un peu plus originale, qui faisait moins peur, mais qui était plutôt bien racontée, tout ça. Et du coup, c'est Elliot qui a réagi. Elliot, il a marqué virtuellement Elliot sur la lettre.
Je reçois un chèque de ce soir.
C'est ça. On se parle après.
Bah ouais, nickel, mais j'ai beaucoup aimé aussi l'histoire de Théo dans sa manière d'aborder justement tout ce qui est paranormal, tout simplement, l'étrange. on est resté quand même un peu sur ce qu'il sait faire, c'est-à-dire des creepypastas, mais c'était quand même assez bien raconté aussi. De son...
Ouais, c'était aussi bien raconté. Il y a vraiment les deux histoires étaient super bien racontées. Je vous félicite.
Pour le jeu, on va faire comme l'année dernière un jeu qui vous avait tous beaucoup plu. Il s'agit de fiction ou réalité.
Yay!
La réaction.
Yes.
Moi j'ai donné une réaction.
Je crois que c'est un jeu que vous avez bien aimé en fait.
Pas à si nous ou aux gens. Sont...
Non vous, mais les gens
mais
aussi.
Ouais, c'était sympa. J'ai aucun souvenir, ouais. Mais.
je me suis dit, on va le refaire. Et comme l'année dernière, je vais vous réexpliquer les règles. Comme vous le savez, le genre de l'horreur s'appuie beaucoup sur le réel pour cultiver l'imaginaire et la peur. Et ce n'est pas rare de retrouver des films d'horreur basés ou inspirés d'histoires vraies. Et c'est exactement le jeu que l'on va faire aujourd'hui. Je vais vous citer des films d'horreur, très connus pour la plupart, et vous allez devoir me dire si c'est une pure invention ou si c'est inspiré d'une histoire vraie. Et bien évidemment, s'il s'agit d'une histoire vraie, je vous raconterai l'histoire qui se cache derrière ce film. Je vous mettrai aussi bien évidemment toutes les sources en description pour ceux qui veulent se renseigner. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que tout est clair déjà?
Oui, c'est simple.
C'est le même rêve que l'année dernière, du coup.
Oui, c'est exactement la même chose. Donc, je pense que vous êtes plutôt habitués. Je vais vous donner un film. Vous me dites si c'est vrai, enfin, si c'est histoire vraie ou pas. Et après, je vous donnerai la réponse. Est-ce que Jordan, tu es prêt?
Je pense que oui.
Ok, et est-ce que toi Théo tu es prêt?
Ouais, chaud.
Ok. Premier film. Est-ce que le film La Mouche de David Cronenberg, sorti en 1986, qui met en scène un scientifique qui rate une expérience et qui se transforme lentement en une sorte de monstre bizarre chelou, est inspiré d'une histoire vraie ou pas?
Du truc où quelqu'un devenait super bizarre et il faisait...
Ah ouais, est-ce que vous avez vu le film?
Ouais.
Je sais juste qu'il y a Jeff
Goldblum. C'est pas l'acteur de... Ouais.
Oui, voilà, Jeff Goldblum, il vient de le dire. Ouais. Et donc pour vous, est-ce que ce film est inspiré d'une histoire vraie ou pas?
Non.
Non pour Théo.
Bah, ouais, je connais ton côté un peu fourbe. De nous mettre un truc vraiment très gros en mode une mouche, mais je suis sûr que c'est inspiré d'une réalité, mais c'est un peu fictionné, un petit peu.
Ça ne répond absolument pas.
Du coup,
ça.
Moi je dirais que c'est une histoire vraie.
Vrai pour Jordan et faux pour Théo. La réponse, c'est faux, ce n'est pas du tout inspiré d'une histoire vraie. C'est un échec pour Jordan.
Du coup, bon. Je veux une histoire moi.
Tu feras gaffe, Jordan, je crois que t'es très près de ton micro, du coup ça sature à certains moments quand tu rigoles. On va passer tout de suite au deuxième film. Est-ce que selon vous, le film Amityville, la maison du diable, réalisé en 1979 par Stuart Rosenberg, est inspiré d'une histoire vraie ou non?
C'est quoi le synopsis?
C'est une famille qui s'installe. Après qu'il y a eu des événements type meurtre dans la maison et il repère des éléments paranormal type...
Mais il le savait?
Paranormal.
Ou il savait pas?
Non, justement.
Ouais.
Sinon, il serait pas installé dans la maison, tu te dis bien. Il y aurait pas eu de truc, quoi.
Moi, je vais répondre en premier. Vas-y. Putain, j'ai moins de chance de me tromper. Moi, je dirais que c'est vrai.
Vrai pour Jordan.
Et là même.
Vrai pour Jordan et vrai pour
Théo. Que des suiveurs.
Le film Amityville, la maison du diable, est une histoire vraie, et c'est je pense que c'est l'un des films les plus connus, en tout cas inspiré d'une histoire vraie, avec Chucky. C'est une histoire très connue, mais que je vais vous re-raconter. Dans la nuit du 12 au 13 novembre, à 3h15 du matin, Ronald DeFeo Jr. abat ses parents ainsi que ses quatre frères et sœurs dans leur sommeil. La police ne s'est prévenue que le lendemain, lorsque Joey, un patron de bar, téléphone pour annoncer qu'un jeune homme a signalé le meurtre de toute sa famille. Après s'être rendu sur les lieux avec l'aîné, des DeFeo, Joey confirme avoir découvert les cadavres de toute la famille. La police arrive alors sur place et se constate que rien ne semble avoir bougé. Les six membres de la famille sont allongés dans leur lit respectif, des impacts de balles dans le corps. Quant à Ronald DeFeo Jr., il affirme qu'il avait quitté le domicile familial vers 4h du matin pour aller travailler. Le jeune homme prétend avoir passé la journée à essayer de contacter sa famille, sans succès, et que c'est en rentrant chez lui qu'il a découvert le massacre. La maison est ensuite rachetée en 1975 par la famille Lutz, mais cette fois-ci, elle se révélera être le théâtre de plusieurs manifestations paranormales dont le film est inspiré. Voilà, c'est toujours la bonne humeur, mes possessions de maison, tout ça, on est content. On va passer tout de suite au troisième film.
Okay.
Est-ce que selon vous, le film Les Griffes de la Nuit, réalisé en 1984 par Wes Craven, est inspiré d'une histoire vraie ou n'est que le fruit de son imagination débordante? Est-ce que je vous fais le
pitch? J'ai ma théorie des vrais. Si. C'est quelque chose. Si, moi, je dis toujours vrai. Je vais toujours avoir plus de bonnes réponses.
L'année dernière, ça n'a pas trop fonctionné. Hein. Je viens de te rappeler.
J'ai fait pareil l'année dernière.
Oui.
Bah, ça marche peut-être cette année. Peut-être.
Il faut se dire que Les Griffes de la Nuit, pour ceux qui
ont. Moi, je dirais que c'est vrai.
Ça met en scène Freddy Krueger, un tueur psychopathe qui vient vous tuer dans votre rêve. Et si vous mourrez dans votre rêve, vous mourrez dans la réalité.
Mm-hmm. Ah, j'avais oublié ce détail-là.
Donc, vrai pour Jordan.
Faux pour moi. Je suis sûr.
T'as dit que c'était faux?
Ouais.
Moi, je dirais que c'est vrai parce que. Faut toujours dire le contraire. J'avais dit que c'était vrai en plus au départ.
Ça n'a pas trop marché pour la première question, quand même.
Bah, pour la deuxième, ça a marché.
Ah, bah oui.
Donc, le film Les Griffes de la Nuit est bien inspiré d'une histoire vraie.
Oui, la théorie des vrais marche.
Alors,
mais d'où?
Je vais vous expliquer. En fait, Wes Craven, en interview, donc c'est le réalisateur, il dit s'être inspiré d'une histoire assez sordide qu'il avait vue passer dans les news locales, grosso modo. Cette histoire, c'est celle d'un jeune garçon au Cambodge qui refusait de dormir car il avait peur de mourir dans son sommeil. Chose basique quand on est petit. Après des semaines à faire des cris chaque soir, il a fini finalement par s'endormir. Et ce soir-là, au beau milieu de la nuit, ses parents ont entendu un cri de douleur assez terrifiant. Lorsqu'ils sont arrivés dans la chambre de leur fils, il était mort avec de multiples lacérations sur le corps. Et la cause ne fut jamais expliquée.
Ah ouais.
Voilà, et du coup, il a créé toute l'histoire autour de ça. Moi, c'est un film qui m'a traumatisé aussi quand j'étais petit. Est-ce que je vous raconte cette anecdote incroyable?
On s'en fiche un petit peu. Okay. Hein.
D'accord, c'est la fin du podcast, merci à tous. il faut savoir qu'à un moment dans ma vie, j'ai eu 13 ans. Donc, c'est-à-dire il y a deux jours à peu près. et je découvrais le cinéma horrifique. Donc, je commençais à regarder des premiers films comme Les Dents de la Mer et d'autres incroyables chefs-d'œuvre. Mais je n'avais pas ce frisson. Ce frisson de on a peur devant le film. Parce que je me sentais invincible. À ce moment-là, je me tourne vers mon père qui me dit « Ah bah tiens, ça tombe bien, à ton âge, quand j'avais 13 ans, j'avais regardé un film qui s'appelle Les Griffes de la Nuit et qui m'avait traumatisé. Il l'avait empêché de dormir carrément. » Et moi, je me dis, mais tranquille, moi, ça va pas me traumatiser. Moi, je suis invincible. J'ai pas beaucoup dormi, hein. Faut savoir, pour cette année-là, j'ai eu beaucoup de mal à trouver le sommeil. Et donc, voilà.
Pendant toute l'année ou juste ce soir-là, pendant que t'as dit cette année-là?
Bah, déjà le soir, et surtout toute l'année, j'ai eu du mal à m'endormir. Surtout, j'ai dormi, hein, mais j'ai eu du mal à m'endormir, justement à cause de ça. Et puis après, il y a eu une nuit, ça a été assez symbolique. Une nuit où je me suis dit, on va affronter ses peurs, hein, tout simplement. Et donc je me suis endormi dans mon rêve, tu sais, à force de penser à un personnage ou à quelque chose, bah ça finit par arriver dans ton rêve. Et du coup, dans mon rêve, j'ai rêvé qu'il y avait Freddy Krueger et que je lui ai éclaté la tronche. Et donc voilà, après, je n'ai plus jamais fait de cauchemar sur Freddy. C'était la revanche sur la vie. Et j'aime bien l'idée de croire qu'il a vraiment existé et que je lui ai vraiment éclaté la tronche. Voilà, c'était la petite anecdote. Nous sommes donc à 2-2 et on passe au prochain film. Est-ce que, selon vous, le film It Follows, réalisé par David Robert Mitchell en 2014, est inspiré d'une histoire vraie? It Follows, je ne sais pas si vous l'avez vu.
Non,
je pense pas, je ne sais pas.
Concept très simple. Il y a une personne qui a une malédiction, et si tu fait l'amour avec cette personne, littéralement, tu récupères cette malédiction. Cette malédiction, c'est quoi ? C'est un démon qui va te poursuivre lentement, qui va marcher lentement et qui va te poursuivre jusqu'à que tu meurs, enfin jusqu'à qu'il te tue. Grosso modo, on est sur ça.
Oh, nice.
C'est très bon film d'ailleurs. J'ai montré à Jordan et il a adoré.
C'est pas comme si j'avais dit dans l'intro que le film n'était pas forcément. pas aimé.
Et donc, est-ce que selon vous, ce film est réalisé, est inspiré d'une histoire vraie?
Je te laisse répondre en premier, Théo. Mais il y a une petite subtilité dans la Théo des vrais, c'est qu'à partir de trois vrais, il y a toujours une fausse. Et il faut toujours dire le contraire de l'autre. Je vais dire vrai.
Vrai pour Jordan et vrai pour Théo. La réponse, c'est que c'est pas du tout inspiré d'une histoire vraie.
Non ! Pourquoi je m'écoute pas ? Que je me dis, ah, t'es coup, si là je perds, ma théorie. Non. Ma théorie était. En fait, vraiment, je vais tout le dialogue en mode. En fait, il y a une exception, tout ça, pour que la finale. Ce soit vrai que ce soit faux. Non, mais ça m'énerve, c'est bon.
C'est la théorie la plus fumeuse que j'ai entendue de ma vie. Hein.
Non, mais je me suis dit, à petit coup, si c'est vrai, en fait, je me suis dit, en vrai, je suis content parce qu'on a toujours le même nombre de points et que j'ai toujours répondu vrai. Du coup, je persiste à dire que la théorie des vrais, elle marche parce que j'ai le même nombre de points que Théo.
Ouais, c'est vrai qu'on est sur un match serré, on est quand même sur un 2-2, ce qui est assez serré.
Il reste encore de combien de.
T'en fais pas.
Vrai ou faux.
T'en fais pas pour ça.
Il y en a beaucoup.
Est-ce que selon vous. Oui, je suis passé à l'autre film. Hein. Est-ce que selon vous, le film Paranormal Activity, réalisé en 2007 par Oren Peli, est basé d'une histoire vraie? Sachant qu'on est sur du phone footage, c'est-à-dire. C'est comme une caméra de surveillance qui filme une maison la nuit et il se passe des choses paranormales dans cette maison.
Selon la théorie des vrais.
Encore la théorie des vrais.
Après, trois vrais et une fausse, il est généralement une deuxième fausse. Mais à part si le présentateur s'appelle Elliot, c'est une vraie. Je dirais du coup que c'est vrai.
Parce qu'en fait, en gros, si c'est moi, ça veut dire que je connais la théorie et que je fais exprès de mettre l'inverse, c'est ça ? Ok. Donc vrai pour Jordan. Ouais,
vrai aussi, je pense.
Et vrai pour Théo. La réponse, c'est que c'est faux.
Non.
Je connaissais la théorie, la contre-théorie, du coup, j'ai fait une contre-contre-théorie, c'est pour ça. Mais c'est pas grave, vous êtes toujours à 2-2.
Pourquoi ? Pourquoi mes théories sont toujours bonnes, mais que je ne réponds jamais la bonne théorie ?
On va passer au prochain film. Ce prochain film est Insidious, réalisé en 2010 par James Wan. C'est le film qui a complètement lancé la carrière de James Wan. Et ça parle de possession d'enfants, grosso modo. Est-ce que film, selon vous, est basé sur une histoire vraie ou pas?
Tu peux répéter vite fait pour.
Insidious, 2010, James Wan, enfant qui se fait posséder.
C'est vrai. Je pense que c'est vrai.
Vrai pour Théo.
Non, selon la théorie de. J'ai pas envie de me tromper. D'avoir un point, je vais dire vrai. Parce que...
Je comprends plus c'est quoi cette théorie.
Non, c'est une autre théorie. C'est ouais. Théorie de j'ai pas envie, je sens que c'est vrai. Mais si je dis faux, je vais avoir faux. Du coup, je me dis c'est vrai.
La réponse. C'est faux.
Mais ça m'énerve.
Vous savez que je suis capable même de mettre que des faux jusqu'à la fin du quiz.
Mais t'es aussi capable de mettre là, exprès, prochain truc, un vrai, juste pour nous tromper. Du coup, tes explications, on n'en veut pas. On veut le jeu.
Mais tu ne sais pas comment je réfléchis et je peux mettre genre vraiment que des faux jusqu'à la fin ou que des vrais jusqu'à la fin. Vous de voir.
Surtout, tu prends que des trucs de niche.
Bon, c'est pas de niche, hein, quand même, James Wan.
Enfin, oui. Beaucoup, on va dire ça comme ça.
Est-ce que vous avez vu le film Conjuring ?
Non.
Ok, bah c'est toujours James Wan, réalisé en 2013 cette fois-ci. Et c'est là, cette fois-ci, une maison qui est possédée. C'est plus enfant, c'est la maison qui est possédée.
Est-ce ouais, il est passé au-dessus. C'est vrai ou pas?
Voilà, c'est ça.
Bon, là, je pense que c'est vraiment vrai, là.
Donc, vrai pour Théo.
Là, j'ai des doutes.
Là, j'ai rien à doute. Mais le problème, c'est que là, dans la stratégie, c'est de garder le même nombre de points que Théo. Mais même, j'ai quand même envie de gagner. Du coup, depuis tout à l'heure, tu mets des faux. T'arrêtes pas de nous dire que tu vas mettre que des faux. C'est que là, le problème. C'est que là, si tu mets un faux, encore une fois, et que je répondrais, tu vas encore lui dire « Ah, mais je peux mettre encore des faux tout le long du truc. » Et le problème, c'est que j'ai mis faux et que c'est vrai. Bah, Théo, il aura un point de plus que moi. D'ailleurs, bah, fallait pas m'écouter. Hein.
Jordan, tu dis, fais confiance à ton instinct. Écoute seulement ce que dit ton âme, ton cœur. Conjuring 2013, James Wan, maison possédée. Est-ce que pour toi, c'est vrai ou pas?
Probablement, ça avait fait un vrai, vrai. Non, c'est vrai, faux, vrai. Non, c'était faux, vrai, faux. faux. Je vais dire que c'est faux.
Donc, vrai pour Théo. Il faut pour Jordan.
Alors,
il faut savoir que la saga Conjuring est très connue parce que tous les films sont des adaptations d'histoires vraies.
Et bim.
Et donc là, c'est le premier film Conjuring. En plus, je t'avais montré le 2, Jordan. Dans le 2 même, il te montre des images et des enregistrements audio de l'exorcisme. C'est assez passionnant. Et dans le 1, on te montre des photos. Et mais quelle est cette histoire, cette terrible histoire que nous raconte Conjuring? En 1970, le couple Roger et Caroline Perron, et ainsi que leurs 5 filles, emménagent dans le Rhode Island, et plus précisément dans une grande et vieille ferme située à Harrisville. La famille espère couler des jours heureux dans leur nouvelle demeure, mais c'est une toute autre histoire qui les attend. En effet, peu de temps après leur emménagement, des faits étranges commencent à se produire dans la maison. Télékinésie, sévices physiques, apparitions fantomatiques et autres joyeux effets paranormaux. Malheureusement pour la famille Perron, par manque d'argent, ils ne purent pas déménager avant 1980. Ils ont ainsi dû subir les assauts répétés et ultra-violents des esprits qui hantaient la maison d'Harrisville pendant 10 ans, avant de faire appel au couple Warren, expert en paranormal et autres fantomatismes. Pour l'anecdote, la famille Perron, qui a été invitée à l'avant-première du film, déclarera qu'elle n'est pas choquée par ce qu'elle a vu à l'écran. En effet, ce qui est montré n'est absolument rien comparé à ce qu'ils ont réellement vécu. La joie de vivre.
Ah, nice.
Bon, je pense qu'on peut passer au prochain film, sauf si vous avez des remarques pertinentes à faire. Du type Jordan.
Ah, Gabriel marche tout le temps.
2 à 3.
C'est pour ça que t'as mis faux à la dernière.
Bah non, parce que, non, mais j'ai mis faux parce qu'il m'a perturbé en fait. Elliot.
Alors, est-ce que selon vous, le film Lights Out, plus communément appelé Dans le Noir, réalisé par David F. Sandberg en 2016, est inspiré d'une histoire vraie? Pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'un démon qui apparaît quand tu éteins la lumière, quand tu es dans le noir, mais qui disparaît quand tu allumes la lumière.
Je continue sur ma lancée, du coup, bah, c'est vrai.
Donc vrai pour Théo.
Je réfléchis.
Je réfléchis pas trop longtemps, quoi.
Le problème, c'est qu'il a mis vrai. Et le problème, c'est que j'ai envie de gagner. Et pour le moment, j'ai un point d'écart. T'as dit que c'était quoi déjà la saga Lights Out, c'est ça?
Lights Out, plus communément appelé Dans le Noir.
Généralement, dans le noir, on voit rien.
Si, tu vois, généralement...
Merci pour cette remarque, remarque, Jordan.
Non, mais je réfléchis à des choses logiques, des choses claires, pour après vérifier le truc. Du coup... T'allumes la lumière, tu l'éteins, tu allumes et quelqu'un. Non, ça c'est possible. Quand tu c'est éteins, ça
en gros, quand la lumière est allumée, tout va bien, mais quand tu éteins, tu distingues
D'accord, c'est pas ça.
Une forme humaine, en fait, tout simplement.
Merci pour ce détail-là. Je vais avoir vrai pour la prochaine réponse, parce que je vais dire vrai.
Vrai pour Théo et vrai pour Jordan.
Alors,
la réponse, c'est non. Vous n'avez pas du tout inspiré d'une histoire vraie. En revanche, avant d'être un film, Lights Out était avant tout un court-métrage réalisé par Pony Masher. Pony Masher, du coup, qui est David F. Sandberg, hein, pour ceux qui l'ont compris. Il a fait beaucoup de courts-métrages horrifiques disponibles sur YouTube, toujours avec des high concepts du type « quand tu éteins la lumière, il y a quelqu'un », grosso modo. Et c'est vraiment flippant. Et donc voilà, si vous voulez, si vous ne savez pas quoi faire ce soir, je vous invite à vous taper tous ces courts-métrages. C'est vraiment 5-6 minutes chaque court-métrage. Et c'est toujours une grosse claque d'horreur à chaque fois. C'est assez terrifiant. Donc voilà, petit troco, c'est toujours sympa. Donc on est toujours à 3-2 pour Théo. Oula, il y a quelqu'un qui vient de manger son micro, je crois que c'est Théo. Donc voilà, on va passer tout de suite au prochain film. Est-ce que pour vous, dans le film Dans les hautes herbes, réalisé par Vincenzo Natali en 2019, est issu d'une histoire vraie? Pour ceux qui ne savent pas, une famille se balade dans un champ avec des herbes très hautes, mais n'arrive plus à retrouver son chemin et se perd, et découvre des choses pas très sympas dans ce champ.
Je sais pourquoi depuis tout à l'heure j'ai que des faux, parce que je réponds toujours en deuxième, et que ça plane le doute et que ça me perturbe dans mon vrai faux. Ouais, l'histoire paraît un peu vraie. Mais est-ce que ça ne cacherait pas un faux?
Je sais pas.
Parce que c'est un peu gros quand même, les gens, ça... Moi, après, je dirais...
Conjuring.
C'est encore un Conjuring, ça?
Non, mais le film...
Non, t'es en train de me perturber. Mais moi, je dirais que c'est faux.
Ok. Faux pour Jordan.
Là, depuis tout à l'heure, je me prends des... je me prends des pas de points, en fait. Du coup, bah, je pense que pour être plus safe, je vais prendre la même réponse que Jordan.
Donc, faux pour Théo et faux pour Jordan. La réponse est bien fausse. Vous avez raison.
Après, il me suit, c'est un suiveur. Non, mes réflexions... En fait, dès que mes réflexions, elles sont fondées bien, pas d'Eliott ou de Théo qui me perturbent avec leurs réponses. Du coup, tout va bien. Non, mais incroyable.
Et donc, on passe à 4-3 pour Théo. Je rappelle le score. Et on va passer tout de suite au prochain film. Ce film, je pense que vous le connaissez, hein, car c'est le film le plus terrifiant de l'histoire, considéré comme le film le plus terrifiant de l'histoire du cinéma horrifique. Il s'agit de L'Exorciste, réalisé en 1973 par William Friedkin. Est-ce que, selon vous, ce film est inspiré d'une histoire vraie ou pas?
C'est vrai. Je suis sûr que c'est vrai.
Vrai pour toi.
Je pense que c'est vrai.
Vraiment, les gens qui sont sûrs de soi, là, moi, je ne trompe pas.
J'ai dit « je pense ». T'inquiète.
J'ai une question. Il reste combien de questions? Si je me trompe et qu'il gagne un point, tu vois, je ne veux pas être en mode... Il reste deux questions, tu vois. Il faut absolument, là, pour gagner, que j'ai plus de points. Du coup, il faut forcément mettre...
Une seule autre.
Ah, du coup, il a répondu vrai. Et le problème, c'est qu'il était sûr de lui. Et qu'il faut que je sois... Non, mais c'est impossible. En fait, vu que je sais pas, il faut être au pif. Mais le problème, c'est qu'il faut être au pif, mais avec de la chance. Je pense. Mais le problème, c'est qu'il a dit « je pense ». Parce qu'il m'a dit « je pense » pour ce mode... Il faut que je le trompe et que... Je sais pas. Moi, je vais dire faux parce qu'il faut le jeu.
Donc vrai pour Théo et faux pour Jordan. Ce film, ce chef-d'œuvre, L'Exorciste, qui a inspiré de nombreuses suites et autres films depuis sa sortie, est bien inspiré d'une histoire vraie.
Non mais c'est une grosse blague.
Je le savais.
Et je sais que si je pense pour me...
Ah oui, pour te brain.
Mais je le savais. Mais c'est juste que je me suis dit, il reste une question. Moi, j'ai. Bon, mais c'est, qu'est-ce que tu veux que je joue l'égalité? C'est nul, l'égalité. Hein.
Son récit glaçant, je parle du film, s'appuie sur deux cas d'exorcisme reconnus par l'Église et qui se seraient déroulés sur le territoire américain. Si, donc déjà, il y a le cas d'une femme qui est reconnue en 1922 aux États-Unis, et c'est principalement l'affaire publiée par le Washington Post en 1949 qui fera couler beaucoup d'encre et qui inspirera du coup William Friedkin, le réalisateur. Dans cette affaire, l'Église aurait pratiqué l'exorcisme du jeune Rolando, Roland, plus loin d'eau, hein, son nom de famille c'est d'eau, hein, qui était alors âgé de 14 ans et qui aurait été possédé dans le Maryland. Un cas assez spécial qui inspira notamment le livre L'Exorciste, qui est paru en 1971 et dont le film s'inspirera. Donc en gros, le livre s'est inspiré de l'histoire, enfin de, d'une histoire vraie et le film s'est inspiré du livre, grosso modo.
Du coup, c'est pas réellement une histoire vraie, puisque c'est un livre.
Si. C'est vrai. Cet exorcisme, en fait, il faut savoir qu'il est assez exceptionnel. Parce qu'il y avait deux prêtres qui étaient présents, et l'un d'eux notait dans un carnet tout ce qui se passait. Et ce qui est plutôt glauque, c'est que tout ce qui est marqué dans ce carnet est plutôt fidèle au film, en fait, tout simplement. Et le problème, c'est que là, je survole un peu l'histoire, mais il y a énormément de choses à raconter sur cette affaire. Déjà, si vous voulez vous renseigner, bah, voyez le film L'Exorciste et vous aurez un aperçu de ce qui s'est vraiment passé. Et sinon, je vous renvoie vers la dernière vidéo de Matt se fait des films qui détaille plutôt bien l'histoire sordide derrière ce film sordide. Bravo à Théo qui passe directement à 5-3. C'est dur de remonter, Jordan, sachant qu'il reste...
Hey, on a joué le jeu, on s'est fait piéger par Elliot, mais on reste là. Mmh. On a quand même 3 points, donc moi j'y connais rien.
C'est vrai.
Moi aussi j'ai regardé que Annabelle. Hein. Annabelle 1 et Annabelle 3, alors voilà.
Alors que le 2 il était là d'ailleurs.
Depuis tout à l'heure, j'ai pas au pif.
Pour la dernière question, ça va être assez particulier. Parce que je me suis dit, est-ce qu'ils ont bien suivi? Est-ce qu'ils sont bien suivis? Donc je suis allé reprendre un film de l'année dernière. Si vous avez bien écouté l'épisode, vous aurez la réponse. Et si vous ne l'avez pas écouté. Bon courage. Est-ce que le film Scream, réalisé en 1996 par Wes Craven, est inspiré d'une histoire vraie ou non?
Moi, je dirais que c'est forcément vrai. Je sais plus, mais je dirais que c'est vrai.
Pourquoi forcément vrai?
C'est vrai.
Mais tu joues pas le jeu! T'as un point de plus! Qu'est-ce que t'as à faire? T'es énervé. L'espoir remonter à 4-3. Enfin, si, ouais. au moins j'aurai que 2 points d'écart. Si...
Est-ce que c'est vous vous rappelez de la réponse que j'avais donnée l'année dernière?
Moi, je pense que ça hésite entre vrai ou faux.
Oui, c'est le principe du jeu.
Moi, vous... je sais plus du tout. Ouais,
comme ça, pour la prochaine fois, vous saurez qu'il faut réécouter les épisodes. Donc, toi, tu te rappelles de la réponse qui avait été donnée l'année dernière?
Je crois que oui. Je pense.
Donc vous restez tous les deux sur vrai.
Oui.
D'accord.
Après, je sais pas.
Jordan aussi, j'imagine.
Je sais pas, moi. Après, je me dis, si je peux récupérer un point sur lui et au moins être dans le jeu, tu vois. Pas comme certains. Du coup, je pense que je vais mettre faux. Juste pour... D'accord. Jouer le jeu.
L'année dernière... La réponse que j'avais donnée, c'est que c'était faux.
Yes!
Merde!
Yes! Oui!
Merde!
Allez!
Sauf que...
Non! Non!
Ne dis pas ça!
Non! Tu ne veux pas faire ça avec moi! Non!
Steve Martin se fait des films. Il a fait une vidéo sur...
Non! Tu ne peux pas faire ça avec moi!
Sauf que je m'étais trompé l'année dernière. Parce qu'en fait, il s'agissait bien d'une histoire vraie.
Merci, m'a se fait des films.
Non, mais.
Je t'avoue, j'ai pas vu sa vidéo, mais.
Qui l'a dit?
Ouais.
J'ai aucune idée, mais si tu le dis, ouais.
Non, mais il y a un truc que je comprends pas. C'est pourquoi tu nous reproposes de changer notre réponse? Moi, je demande. Qu'un huissier qui en passe par là, parce que là, c'est vraiment. Y a rien qui va. Déjà, tu te trompes l'année dernière. Après, tu te trompes l'année dernière. Le film, tu l'as vu 4000 fois. En plus, toi, tu mets en mode « Non, mais je me suis trompé, on remet par rapport à l'année dernière. » Du coup, même si on a vu l'épisode l'année dernière, on se trompe de toute manière. Du coup, je veux que les points de l'année dernière soient recomptés.
En fait,
non, mais non.
Il faut savoir que quand j'ai fait l'épisode... En fait, j'ai cherché des slashers. L'année dernière, je vous ai donné beaucoup de slashers. Et j'ai été étonné que... Enfin, les slashers, c'est des gens masqués qui tuent des adolescents, il me semblait. Et en fait, j'ai été étonné parce que je me suis dit, c'est bizarre quand même. Tous ces slashers, Halloween, Scream, Les Griffes de la Nuit, c'est bizarre que ça soit pas inspiré d'histoires vraies. Genre, forcément, il doit y avoir un tueur psychopathe masqué qui a déjà tué des gens. Et en fait, quand je regardais sur Google, en fait... Ben c'était, je me suis renseigné, en fait j'ai vu que c'était bien une histoire vraie. Donc en tout cas pour Les Griffes de la Nuit et pour Scream.
Mais comment t'as pu te tromper l'année dernière?
Écoute, c'était Régis hein, qui m'a pas donné les bonnes infos.
Toujours Régis.
Mais du coup je vais vous raconter l'histoire, la sordide histoire derrière le film Scream. Kevin Williamson, qui est le scénariste des deux premiers films et du quatrième, a puisé son inspiration dans une célèbre affaire des années 90. Celle de l'éventreur de Gainesville, alias Danny Rowling, un tueur en série et en civil aux États-Unis. Danny Rowling connaît le même parcours que tous les autres meurtriers sanglants avant lui. Il est né en 1954 à Shreveport, si je ne dis pas de bêtises, en Louisiane. Il grandit dans un foyer instable, violenté par son père, et il est même témoin de la tentative de suicide de sa mère.
Ah, nice.
Très jeune, il se fait connaître des services de police en étant arrêté pour voyeurisme et cambriolage. Il attendra ses 35 ans pour commettre sa première tuerie, le 4 novembre 1989. Il s'introduit donc dans une maison de sa ville natale et tue trois habitants, un homme de 55 ans, une jeune femme de 24 ans et aussi un enfant de 8 ans. Sympa. Et en fait, ce qui inspirera vraiment le film Scream, c'est que, oula, j'ai frappé le micro, c'est qu'il s'en prendra une nuit des étudiants, tout simplement. 5 personnes cette nuit-là tomberont sous les coups de Danny Rowling dans la nuit du... Ah non, pas dans la nuit en fait, entre le 24 et le 27 août. Donc c'est quand même dans un court laps de temps. 5 personnes, hein, voilà, je vous les citer. Il y a eu Tracy Pauls qui a 23 ans, Manuel Taboada qui a 23 ans aussi, Christia Hoyt...
Qui avait.
Christa Hoyt qui a 18 ans, Christina Powell, 17 ans, et Sonny Larson, 18 ans aussi. La terreur s'empare alors de Gainesville. Et ses tueries lui valent le surnom de l'éventreur. Sur le campus, les étudiants prennent l'habitude de rester en groupe, cloîtrés dans leur chambre, et changent parfois même d'université. Le 7 septembre 1990, le tueur est arrêté lors d'un cambriolage près de Gainesville, dans une autre ville tout près. Les forces de l'ordre font le rapprochement en découvrant chez lui des outils pouvant correspondre aux armes des précédents crimes, ainsi que des enregistrements vocaux utilisés pour commettre les crimes. Tout comme le film, en fait, tout simplement. Donc voilà, sorry pour l'année dernière et désolé pour Jordan, mais Théo remporte de nouveau ce jeu.
Je veux que les points de l'année dernière soient recomptés. Ça va peut-être changer tous les résultats. Moi, je veux que toutes les réponses à ce truc soient de ce quiz d'aujourd'hui, ils soient recomptées. Je veux qu'un huissier, que l'État vérifie que l'huissier soit bien. Et les bonnes capacités pour vérifier et que je ne me fasse pas tromper deuxième fois.
Donc, si quelqu'un qui nous écoute veut vérifier toutes les informations pour faire plaisir à Jordan, n'hésitez pas.
On compte sur vous.
Je pense qu'on a fini avec le jeu. Voilà, c'est un très bon jeu.
Très bon, ouais. Bon.
Voilà, merci Théo d'avoir pu participer à ce jeu.
Non, c'est normal.
Et merci pour ton histoire, pour cet épisode. Nous, on a fait notre conclusion de notre côté, mais est-ce que tu as un film à recommander pour Halloween ou quelque chose à recommander pour Halloween?
Ah bah, comme l'année dernière, la chaîne de Feld Up et Paradox. Enfin non, pas Paradox, enfin... Envy Jenkins.
Ok, Envy Jenkins et Feld Up.
Ouais.
Ok, bah je... Si je suis sage, je mettrai en description les chaînes et sinon bah, vous pouvez regarder par vous-même, vous êtes assez grand je pense. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode de Vendredi Frisson. c'est toujours un plaisir pour nous de, oui. Voilà,
de vous retrouver.
Oui, déjà, oui. Et surtout de faire cet épisode spécial qui sort un peu de ce qu'on fait dans notre ligne éditrice d'habitude. C'est toujours des moments très sympathiques, hein, généralement. Nous, on vous souhaite un très joyeux Halloween. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, comme je l'ai dit. Une petite recommandation pour Halloween, un petit film à voir à Halloween, ou une série, ou ce que tu veux.
De revoir Les Noces Funèbres, parce qu'on l'a revu, il n'y a pas de commentaire avec Elliot, chacun de notre côté, mais en vrai ce film-là, c'est toujours aussi bien. Mm. Vraiment, j'écoute les musiques sur Deezer, je regarde le film de au moins une fois par semaine, depuis deux semaines.
C'est vrai que moi aussi, je regarde... Je sais qu'en deux jours, j'ai dû le voir alors 4-5 fois, un truc comme ça.
Oui, non, mais c'est un film qu'on peut un peu oublier, que c'est aussi un film d'enfance. Je sais pas quand il est sorti.
En 2007, je crois.
2007
ouais.
Ou 2009. Ah non, tu vois, c'est un film qu'on a vu pendant qu'on était enfant, qu'on a bien apprécié à l'époque, j'imagine.
Moi, je l'ai pas vu, ton enfant. Je l'ai vu cette année.
Oui, c'est ça. Mais du coup. Vraiment, c'est une bonne recommandation, je trouve. Je me juge moi-même dans ma recommandation. J'aime ma recommandation, approuvée par moi-même.
Je pense que moi, ce que je vais vous recommander... on a parlé de beaucoup de films, notamment dans le jeu. Alors, je pense, si vous voulez passer un... Alors, je vais vous donner 3 cas. Vous êtes avec des potes, vous voulez voir un film... Sauf qu'il y en a qui n'aiment pas les films d'horreur, parce que ça fait trop peur. Je vais du coup vous recommander Scream, comme on en a parlé dans l'actualité. C'est un bon film d'horreur, qui ne fait pas peur, et qui est vraiment... vous pouvez le regarder à plusieurs, c'est vraiment assez ludique. Si vous êtes plusieurs et que vous voulez voir un film d'horreur qui fait peur, alors, je vous laisse le choix, mais je pense que vous l'avez déjà vu, je pense le remake, qui est assez terrifiant, et à voir à plusieurs, c'est plutôt pas mal. Et sinon, Sinister, qui est assez bon, et là, vous allez vraiment... avoir peur, et voilà, ça c'est bien, du coup, si c'est ça que vous recherchez. Et si vous êtes tout seul et que vous avez aussi envie d'avoir très peur, je vais vous recommander Hérédité, que moi j'avais vu aussi le soir à minuit, tout seul, dans le noir. C'est vraiment la bonne ambiance, et ce film vous marquera. Voilà, si c'est ça que vous recherchez, le film vous marquera, ne vous en faites pas pour ça. On entend des toc-toc dans la maison, c'est peut-être Jean-Michel Fantôme.
C'est ça.
Voilà. Sinon, très bonne soirée à vous, joyeux Halloween, et nous on vous dit à la prochaine,
ouais.
Dans cette saison 2, merci à vous.
C'est ça, je crois que tu n'as pas vraiment compris. Je t'ai laissé rentrer, mais je ne te laisserai pas repartir. Toi et moi, on va rester ici pour l'éternité. Tu peux toujours courir, ça ne sert à rien. C'est moi qui contrôle les lieux, et ici, tu n'es qu'un simple pantin. Allons, ne fais pas la tête. Je te promets que la suite ne devrait pas être trop douloureuse. Enfin, du moins, je le crois. Oh, on dirait bien que c'est ton jour de chance. Nous nous retrouverons. Où que tu ailles, je te suivrai. Le cauchemar ne fait que commencer.